L'émission Vendémiaire sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, vous propose un document exceptionnel, la lecture de la presque totalité d'un ouvrage écrit par Madame Enat Léger, née Vite, qui, à 87 ans, a voulu laisser une trace écrite de certains événements de sa vie concernant la période autour de la guerre 1939-1945. Au-delà de cet ouvrage que j'ai découvert quasiment par hasard chez un bouquiniste, je ne sais actuellement encore presque rien de cette dame, même pas la date de son décès, qui a dû survenir à la fin des années 80. Elle est née le 27 juillet 1895 à Saint-Amour dans le Jura et a épousé le 17 novembre 1917 à Lyon, Auguste Léger, qui, lui, est décédé le 12 avril 1979 à Saint-Didier au Mont-d'Or. Son témoignage porte le titre bizarre de « Connaissez-vous la cuisine de la Gestapo ?» phrase dont on apprend à la lecture du livre qu'elle lui fut prononcée par Barbie au moment de ses premiers interrogatoires après son arrestation. Cet ouvrage, aujourd'hui épuisé et introuvable, est bouleversant à de multiples titres, et c'est ce qui nous a incités à le porter à votre connaissance. Il nous a semblé que ce témoignage ne devait pas tomber dans l'oubli. Il est difficile de préciser tous les aspects du grand intérêt qu'il présente, et nous pourrions écrire des pages entières sur ce sujet. Mais nous préférons vous laisser le soin de les découvrir au fil du récit, et de vous poser toutes les questions qu'il suscite en vous livrant aux réflexions qu'il vous inspire. Quelques courtes plages musicales sont là pour vous faciliter cette démarche. En tout cas, nous pensons qu'il pourrait être de la plus haute utilité pour des enseignants voulant faire réfléchir des élèves sur ce que représentait un engagement de résistance pendant la guerre et sur ce que représente toujours un engagement. Par ailleurs, ce témoignage concerne directement la vie à cette époque, la résistance et la répression à Lyon. Et c'est là aussi un des motifs pour nous de vous le présenter à Radio Canu. Il y a les faits, parfois insoutenables, mais il y a aussi une restitution de la vision sur ceux-ci et du ressenti de tous ces moments vécus, magnifiquement exprimés avec des mots qui nous projettent bien au-delà des mots. Nous avons sollicité pour cette réalisation la participation de la comédienne Annie-Claude Sauton, qui était totalement en capacité de restituer au plus juste le climat de ce texte difficile et parfois à la limite du supportable. À mon sens, la réussite de cette lecture est totale. C'est ainsi qu'il fallait donner voix à ces mots et c'est ainsi qu'elle a été donnée. Que Annie-Claude Sauton en soit infiniment remerciée. Nous vous proposons donc la diction de la quasi-intégrale de ce texte en 4 émissions, ce jour et les 3 lundis qui suivront. Cette première émission nous conduira jusqu'au 8 août 1943.
Ce que j'ai écrit est une période de ma vie. Je n'ai rien exagéré de ce qui a fait cette partie de mon existence. Mes souvenirs sont toujours aussi nets et précis. Ils peuplent mes jours et mes nuits. Jamais je n'oublierai ces angoisses terribles, endurées alors, ces tortures physiques et morales, et surtout, jamais je n'oublierai mes compagnes de misère qui m'ont aidé à m'en sortir. J'ai voulu seulement témoigner où j'avais trouvé ma force, dans ma foi en Dieu et dans l'amitié de mes camarades. Non, je n'oublierai jamais le souvenir douloureux et combien grand de toutes ces amies qui, comme moi, n'ont été que des artisans de la résistance, aimant par-dessus tout leur patrie et sachant se sacrifier et souffrir pour elle. Lorsque je pense à vous, chère compagne, je vous vois squelettique, enflé, véritable loque humaine, n'ayant plus la force de vous lever, restant là, accroupie sur votre grabat. Pour mon plus grand malheur, j'étais aussi anéantie que vous et incapable de vous venir en aide. Dieu, qu'il était douloureux d'être impuissante à soulager. Je maudis cette bise si rude, où à peine vêtue, vous subissiez comme moi les interminables appels, le dos voûté, terrassé par le mal qui nous séparait parfois à jamais. Ce poignant et terrifiant souvenir me hante encore lorsque je pense à vous. Vous avez été les premiers artisans de la victoire, et mon plus grand désir est que dans les écoles, une place d'honneur soit donnée à l'histoire de votre amour pour votre patrie. Celles qui disparurent avaient la certitude que leur souffrance serait la rançon du bonheur de leur pays. La route pour chacune de nous est maintenant différente, mais souvenons-nous de tout. En gardant précieusement le souvenir de nos morts et de cette solide fraternité, ayons toujours une pensée aussi pour ceux et celles qui vivent encore avec leur plaie morale ou physique. Soyons frères, malgré nos désillusions, puisque nous vivons dans notre patrie bien-aimée, qui nous donnera la joie d'y fermer les yeux. Voilà donc quelques souvenirs entre tous. Mon cœur ne peut les oublier. Ils me permettent de vivre sans haine contre mes odieux bourreaux. Car si je garde les marques de leur brutalité, je conserve aussi les plus beaux souvenirs de la joie inestimable de revenir dans son cher pays libre. Je me rappelle aussi que dans le dénuement le plus complet, j'ai pu apprécier le réconfort de notre fraternité entre toutes. Ce regard compatissant, cette main tendue, cette aide morale dans cette cruelle expérience nous ont liés à jamais. Je ne sais comment remercier toutes mes compagnes. En évoquant les noms, les visages, j'ai demandé à Dieu de leur accorder bonheur et santé. Je n'éprouve plus de haine pour les Allemands. Mais il me semble qu'il me serait difficile d'être leur ami. Peut-on m'en vouloir de ne pas oublier? J'ai été leur victime, parmi tant d'autres, et témoin de leur cruauté bestiale. La réalité fut pire que tous les cauchemars. Les SS, brutes odieuses, se réjouissaient trop de nous savoir à leur merci, heureux de nous anéantir, de nous voir crever de faim et de soif, dans la pourriture et la vermine. Ma vie reste entachée par les angoisses, la peur qui m'étouffait, qui m'étouffe encore. Je souffre de ne pouvoir éliminer de mon esprit ce pénible cauchemar. Je ne faillirai pas en voulant confier ce message de reconnaissance à toutes celles qui furent, pour moi, si charitablement bonnes. Ma pensée va chaque jour vers celles et ceux qui ont été des martyrs et que j'ai laissés dans les camps. Je me souviens particulièrement de Noël 1944. Il faisait très froid ce jour-là, j'étais très désemparée. Cathy le devina et demanda à ses camarades de bloc de m'accepter parmi elles. Toutes furent heureuses de me faire une petite place dans leur clan. En ce jour de fête, nous avions eu droit à un bâton de margarine et à un bout de pain. Après avoir rassemblé ces modestes ingrédients, l'une d'elles se chargea de confectionner un gâteau que nous dégustâmes ensemble. Ce fut peu, mais cela nous apporta la joie de fêter Noël et de partager l'espoir et l'optimisme que cette fête religieuse nous apportait. En effet, il nous fallait éviter de trop penser à notre famille, si loin, en ce jour où elle devait être réunie. J'avais éprouvé un grand plaisir à les sentir enfin détendues, bien que chacune tentât de cacher la peine qu'elle ressentait. Ce jour-là, pourtant, nous avions eu un appel qui dura 6 heures. Nous avions été très désillusionnés, car on nous avait dit que nous en serions dispensés ce jour-là et que nous bénéficierions d'un surplus de nourriture. Pourtant, je n'ai pas éprouvé de colère, tant je me sentais entourée, et grâce à mes compagnes, je bénis ce jour. Cependant, ma pensée était aussi près des miens. Cette faiblesse, je la cachais, même à Cathy, afin de ne pas l'attrister. Il nous fallait garder chaque jour à tout instant la force de lutter pour tenir. Mes chers amis, dont je convoitais la tendresse, tout en vous me ravissait. Je me sentais très près de vous, de vos pensées. Nous avions d'infinies ressemblances. Votre douceur, votre patience, votre générosité m'émerveillaient. Avec mes jambes gonflées et abîmées, sans vous, j'aurais rejoint les cartes roses, l'antichambre des fours crématoires. Je dois tout à la solidarité de mes compagnes. Si farouchement j'ai tenu et résisté aux tortures, au froid, à la faim dans ce bagne de l'horreur, c'est beaucoup à elles que je le dois. À Catherine Morin. Mon premier secours moral, ma principale compagne de misère. Je veux que vous sachiez tout ce que je vous dois dans notre passé commun, à Montluc et à Ravensbrück. Oh, combien, ma douce amie, j'ai été gâtée d'avoir une compagne si maternellement douce, bonne, patiente et courageuse. Cathy, je vous dois sans doute la vie, car votre rôle auprès de moi a profondément contribué à m'aider, à espérer et à lutter. Combien votre réconfort et votre aide m'ont été précieuses dans les moments horribles que nous avons vécus. Mon cœur ne s'était pas trompé en vous choisissant. Vous souvenez-vous, comme nous prions ? Récitant notre chapelet serré l'une contre l'autre, nous abritant du froid sous mon grand manteau de petit gris. Souvenez-vous, Cathy, que si j'ai tenu jusqu'au bout, c'est aussi parce que souvent j'ai trouvé en vous la mère, la sœur, l'amie. Cette solide amitié, je ne puis l'oublier. Elle est sacrée. Vous avez droit à toute ma reconnaissance et ma gratitude. Cathy, vous souvient-il, quand votre tête penchée sur mon épaule, bras dessus, bras dessous, quittant les rangs d'appel, vous me disiez « Quand rentrerons-nous, Madame Léger ?» Ma réponse était toujours la même. « Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin, Cathy. Voyez, nous sommes tel jour, après c'est jeudi, puis 3 jours après dimanche, et nous serons au milieu de mois, puis à la fin du mois. » Saviez-vous que, pour moi, en vous le disant, je me réconfortais, car je me prenais à espérer en voulant vous convaincre. Vous, Cathy, si menu, au cœur si grand, si bon, merci encore pour votre chapelet de laine qui nous a permis d'égrener nos ave quand nous avions tant besoin de Dieu. Je me vois aussi dans ce taudis du revire, surchargé de pauvres prisonnières gravement malades, les unes agonisant sur le sol, les autres dans un état qui ne pouvait qu'effrayer le moins malade. J'entends cette voix qui criait « On demande une Madame Léger, on demande une Madame Léger !» Lorsque je me suis fait connaître, on me dit de regarder vers la fenêtre car on m'appelait. En vain, j'essayais de percer l'obscurité. Je vis tant bien que mal un visage collé contre la vitre. On ouvrit la fenêtre qu'une silhouette menue enjamba. J'ai à peine le temps de vous reconnaître, que vous m'aviez déjà enlacé en me disant « Courage, Madame Léger, il faut tenir, hein, on rentrera, vous verrez, vous allez guérir !» Il ne faut pas me laisser toute seule. Cette bien courte visite vous faisait courir de grands risques. Et lorsque vous avez enjambé à nouveau la fenêtre pour partir, je ne puis m'empêcher d'être soulagée. Sortant de graves maladies, en plein novembre, sans vêtements, autre qu'une mince robe, sans lit ni paillasse, sans pain, couverte de mal répugnant, de poux, vous avez été, mon admirable amie, la petite fée, qui a su implorer sa Stubova pour qu'elle vous permette de me faire partager votre lit. Les matins, vous étiez mon ange gardien, essayant de me procurer un peu d'eau, et vous vous inquiétiez de mon état de santé, cherchant à me réchauffer en me frottant le dos. Aujourd'hui encore, après tant d'années, notre grande amitié ne s'est pas démentie. Je connais mon bonheur de ne pas vous avoir perdu, et le savoure chaque jour. Lulu et Marcel. je veux à présent rendre un émouvant hommage à mon bien cher époux et à son frère, qui, après leurs actions dans la résistance, ont enduré avec courage et une grande volonté les plus horribles tortures avant d'être déportés. Pour libérer notre pays, ils étaient prêts à faire don de leur vie. Après la libération, aucun d'eux n'a jamais voulu évoquer ces moments terrifiants. Profondément marqués par de longs mois de déportation à Buchenwald, ils ont tous deux vécu avec de très graves problèmes de santé jusqu'à leur mort. Mon mari est décédé le 12 avril 1979 des suites de son état déficient. Son frère Marcel, le 2 février 1973, après une longue et douloureuse maladie. Ils sont malgré tout toujours près de moi. Les pensées pour eux sont empreintes de fierté, de respect et d'immenses regrets. Je remercie encore tous ceux et toutes celles qui, par leur lutte et leur souffrance, nous ont aidés à faire que la France reste française. Après la guerre de 1870-71, la France se trouve dans une période de défaite. Or, il faut la laver. Toute la politique de la France repose sur cette phrase d'un homme célèbre de l'époque. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Reprendre l'Alsace et la Lorraine et avoir une revanche sur l'Allemagne, telle est l'optique de la France de 1900. Ma famille illustre parfaitement cette citation. Et ce depuis la guerre de 1870, à laquelle mon grand-père a participé. Il nous racontait ce qu'il avait vu et subi. La famille tout entière écoutait ses récits. Il revivait cette défaite de 70 et la faisait partager à ses enfants et petits-enfants. Dans notre famille de Lons-le-Saunier, tous les samedis, le 44e d'infanterie défilait, musicien en tête. C'était la retraite au flambeau. Tout le pays participait. Pour chaque 14 juillet, dans un enthousiasme effréné où le patriotisme renaissait, toute la population participait aux fêtes avec une joie immense. Les rues étaient décorées, étincelaient de mille feux par les lampions et guirlandes multicolores suspendues aux arbres, aux balcons, aux fenêtres, ainsi que dans les vitrines des magasins. Accompagnés de nos parents, nous suivions le cortège jusqu'au kiosque à musique, place de la Chevalerie, elle-même tout enguirlandée. Durant cette promenade, les gens se croisaient en se jetant des confettis. Quelle ambiance formidable! Après ce festival de musique, nous descendions place de Courbe, où l'on assistait au feu d'artifice. Cette fête et le chant de la Marseillaise quand tenait le 44e d'infanterie m'émouvait et m'excitait au point d'en ressentir une intense vibration dans tout le corps. Aux noces de ma tante Mélina, mon père me faisait chanter Alsace et Lorraine et la Marseillaise. Le premier disque qu'il acheta fut Le rêve passe, chanté par Affre de l'opéra. Qu'il était donc fier d'entendre sa fille interpréter de tels chants. Dans mon esprit d'enfant, commence à naître le patriotisme qui me suivra jusqu'au bout, comme on le verra plus loin. Je ne faisais pas partie d'une famille d'exaltés, mais tout simplement d'une famille, dans l'esprit de l'époque, qui avait soif de revanche. Quand viendrait-elle ? Dans mon enfance, j'entendais très souvent dire que les femmes étaient faites pour la famille et le foyer. Les filles devaient être sages et obéissantes. Elle ne devait s'occuper que de ménage. En fait, la femme ne devait vivre que du prestige de son mari. Au cours de mon adolescence, pendant laquelle je suivis des études dans un institut religieux où la morale et le patriotisme étaient de rigueur, il m'arrivait souvent, en écoutant les conversations tenues par mon père et son entourage, de sentir l'appréhension d'une guerre qu'il pensait inévitable. 1914, c'est la déclaration de la guerre. On sent l'enthousiasme général. Les hommes prennent le train, la fleur au fusil, la joie au cœur, en hurlant « À Berlin, on les aura !» Durant 5 années, ce furent misère et souffrance qui nous tourmentèrent. La vie fut très dure pour tous. Mais quelle joie ce fut de sortir vainqueur de ces combats et d'avoir reconquis l'Alsace et la Lorraine. Enfin délivrés de ce cauchemar, nous apprenions, par la voix des journaux, que les Allemands, de leur côté, étaient malheureux. Leur marque ne cessait de dévaluer, la Ruhr était occupée et le chômage était important. Notre famille, comme bien des Français, n'était pas touchée par ce qui se passait en Allemagne, car pour nous, seul le travail comptait, pas la politique. Nous travaillions la semaine et nous nous détendions le dimanche. La vie reprenait péniblement son cours après cette époque tourmentée qui fit tant de victimes. Mais le régime des cartes d'alimentation restait en vigueur encore pendant quelque temps. Le commerce de mon père ne fut pas trop touché pendant la guerre, car étant mutilé, il ne fut pas mobilisé et put donc travailler durant cette période.
Les soldats sont là-bas, dormis sur la plaine, où le souffle du soir chante pour les bercer. La terre au blé rasé parfume son haleine, la sentinelle au loin va d'un pas cadencé. La voici au ciel des cavaliers sans nombre, illumineux éclaire la précise clarté. Et le petit chapeau semble guider ses ombres vers l'immortalité. Les voyez-vous, les hussards, les dragons, la garde, glorieux-vous, d'observer que l'aigle regarde, feu de Kléber, de Marceau, chantant la victoire, et en le fer, sans vos chevaux, chez la gloire. Mais le petit soldat voit s'assombrir le rêve. Il lui semble là-bas un orage se lève. L'hydrocasse pointue sournoisement s'avance. L'enfant s'éveille ému, mais tout dort en silence. Et dans son cœur, le songe est revenu. Les canons, les clairons, écoutez, regardez les. Les hussards, les dragons, la garde, ils saluent tous l'empereur qui les regarde. Chers enfants de la race, sonnez au chant.
Malgré l'aisance dans laquelle nous vivions, un certain malaise se faisait sentir du côté de l'Allemagne. Les journaux nous faisaient connaître, en même temps que les grèves en France, le réarmement outre-Rhin. Alors que les manifestations de propagande exacerbaient le sentiment nationaliste, plus tard, on apprit que les Allemands avaient pénétré en Rhénanie pour l'occuper. Pour la première fois, on reprononça le mot « guerre ». Et à partir de ce moment, je commençais à vivre dans l'anxiété, d'où mon intérêt porté aux informations et ma crainte pour l'avenir. 1938. en Allemagne commença la chasse contre les Juifs. Le fameux Doriot accusait les communistes, qui réclamaient des armes, de vouloir vendre les Français aux Russes, qui semblaient être aux côtés des Allemands. Toutes ces déclarations et tous ces désordres m'incitèrent d'autant plus à croire à une nouvelle guerre. Cependant, une totale insouciance régnait parmi les Français qui se refusaient à l'évidence. Pendant ce temps, les Allemands pénétraient en Tchécoslovaquie, et peu après on apprenait la défaite de cette nation. Chaque soir, je me couchais dans l'anxiété en constatant avec tristesse l'insouciance générale. Avec le mois de juin, arriva la période des vacances, où nous nous rendions, mon mari, mon beau-frère et moi-même, à Beausséverrier, en Haute-Savoie. Nos parents vivaient dans ce joli petit village sur la frontière suisse. À ce moment, je ne me doutais guère que dans cette propriété, je cacherais plus tard des ressortissants français ou autres, recherchés par la Gestapo, et que je me chargerais de leur passage clandestin en Suisse. À notre arrivée à la maison, après les embrassades, je ne cachais pas à mes parents qui nous interrogeaient sur ce qui se passait et se disaient à Lyon ma grande inquiétude, en leur affirmant que la guerre était inévitable. Ce à quoi mon mari répondit « Oh, toi, tu es un porte-guigne, on devrait te mettre en prison !» À cette boutade, je leur dis de se méfier, que l'on vienne pas les chercher. Quelques jours plus tard, à mon grand désarroi, deux gendarmes se présentaient avec un ordre pour M. Auguste Léger. C'était un ordre de mission qui lui assignait de rejoindre son usine à Lyon sans délai, avec l'aide sollicitée des autorités militaires. Ceci se passait le 19 juin 1939. Cette annonce ne me surprit pas, mais elle fut suivie d'un silence de mort. Néanmoins, nous nous reprîmes vite, car il fallut refaire les bagages pour rentrer à Lyon de suite. Dans le train, nous n'échangeâmes aucune parole. Jamais trajet ne nous parut aussi long. Pour ma part, j'étais très inquiète, je m'interrogeais en vain sur le lieu où partirait mon mari. J'étais glacée par ce mot de guerre qui me revenait inlassablement à l'esprit. De ce jour, au 4 septembre, mon mari fut affecté au 14e régiment d'équipage, à Vaux-en-Velin, puis libéré avant la déclaration de guerre. Il reprit son travail à l'usine Parel. Malgré ce retour qui aurait dû être rassurant, les nouvelles qui nous parvenaient par la radio et les journaux restaient très préoccupantes, car nous vivions l'invasion de la Pologne par les Allemands. De leur côté, la France et l'Angleterre déclaraient la guerre à l'Allemagne. Nous suivions les nouvelles avec de plus en plus d'anxiété. Elles nous informaient malheureusement de l'avancement des troupes allemandes en Norvège, puis en Belgique. En juin, ce fut le choc douloureux. Hitler et son armée rentraient à Paris. J'ai vu alors la débâcle de nos troupes devant le 8 du quai Saint-Vincent, à Lyon, lieu de notre habitation. Des larmes de rage et d'impuissance me montaient aux yeux. J'interpellais des soldats et les interrogeais. Ils me criaient qu'ils fuyaient les Allemands, que la gare de Saint-Amour avait été bombardée et que pour défendre la ville de Lyon, ils n'avaient ni armes, ni chefs, ni lieu de ralliement. D'autres me riaient au nez lorsque je leur criais de s'arrêter, de défendre leur pays, que nous les aiderions tous. Certains soldats avaient l'air tristes et abattus, marchant péniblement, visiblement éprouvés, non seulement physiquement, mais moralement, par cette défaite. En fin de soirée, j'arrêtais deux soldats qui semblaient exténués. J'arrivais à les convaincre de se reposer en leur offrant de les cacher. J'appris que l'un d'eux était parisien et qu'il travaillait chez Félix Potin. La conversation que nous eûmes avec eux pendant le repas fut assez démoralisante. Je sentais ces hommes très éprouvés, dégoûtés, ne cherchant qu'à fuir les Allemands qui les pourchassaient. De la fenêtre du 8 quai Saint-Vincent, je leur montrais les flammes qui montaient du fort juste en face sur la colline. C'étaient les provisions qui étaient brûlées pour que les Allemands ne les trouvent pas en arrivant. Le lendemain matin, ils m'annoncèrent qu'ils avaient pris la décision de rejoindre le Midi. Je leur remplis leur musette de victuailles et nous nous quittâmes en nous souhaitant mutuellement bonne chance. Quant à mon mari, il partit pour Pont-Gibeau dans le Puy-de-Dôme pour son travail avec son patron et 11 ouvriers métallurgiques affectés spéciaux. Ils ne purent atteindre leur but, car à Andance, dans l'Ardèche, ils furent arrêtés par une bataille qui opposait les Allemands aux troupes africaines. Ainsi, les événements les obligèrent à reprendre la route de Lyon. Avant son départ, mon mari m'avait offert de m'emmener. Je refusais, car lui partait pour fabriquer des armes dans une usine spécialisée pour défendre notre pays, et moi, je devais rester sur place, car on pouvait avoir besoin de moi. C'est ainsi que je rejoignis l'atelier que je dirigeais et mes ouvrières. Sur leur visage se lisait l'anxiété, et ce matin-là, peu de travail se fit. Le lendemain, j'appris que les Allemands arrivaient par la vallée d'Azergues, qu'ils déferlaient sur Lyon, les soldats français luttant avec acharnement. Un matin, en me rendant à mon atelier, j'entendis des pas derrière moi. Craignant que ce soit des Allemands, je ne me retournais pas. Cela allait de plus en plus vite. C'est alors que je vis, entouré par les envahisseurs, un groupe de jeunes soldats noirs, au visage triste et fatigué. Ils marchaient cependant, tête haute. Parmi eux se trouvait un homme blanc, avec une très longue barbe, tenant une bouteille vide sous le bras gauche. Il semblait être le chef de ces jeunes noirs. Insensiblement, j'essayais de me rapprocher de cet homme et, marchant à sa hauteur, je lui demandais quel était son nom, d'où venait-il, où allait-il, pouvais-je faire quelque chose pour lui. Malgré mon insistance, l'homme ne me répondit pas. J'aurais pourtant voulu l'aider, prévenir quelqu'un pour lui. Je sentais toute sa souffrance sur son visage crispé, douloureux. Il regardait droit devant lui, indifférent à mes prières. À ma grande surprise, arrivé place de la Martinière, il jeta brutalement et avec colère sa bouteille vide à terre. Devant son geste et son mutisme qui me faisait mal, je lui dis « Je prie pour vous tous. » Finalement, je laissai la colonne me devancer. Le sort de ces pauvres gens que les Allemands conduisaient me tourmenta. Le lendemain, nous apprenions par les journaux que des soldats noirs avaient été fusillés. Je pensais alors tristement à ce groupe que j'avais accompagné la veille. Je blâmais ouvertement le comportement monstrueux de l'occupant. Ces pauvres petits soldats étaient venus de si loin pour défendre notre pays, qui était aussi le leur. Je me demandais quel était donc ce peuple barbare qui tuait de tels exemples de droiture et de vaillance. Pourquoi ne les avait-on pas seulement fait prisonniers ? On disait qu'ils avaient été fusillés par représailles. Je ne l'admettais en aucun cas, car pour moi faire son devoir et faire preuve de courage est toujours signe de grandeur qui mérite respect. À Paris, les journaux portaient de grosses manchettes sur la bataille de la Meuse. Les attaques allemandes étaient décrites sous des aspects terrifiants. Devant l'avance allemande, nous décidions à l'atelier que je dirigeais de jeter à la Saône toutes les gargousses terminées ou pas que nous confectionnions pour l'armée française. Nous ne voulions pas que les Allemands en prennent possession. Cela leur serait trop utile. En commun accord avec mes ouvrières, je décidai de fermer l'atelier. Je me rendis donc à l'hôtel de ville auprès de mesdames Josserand et Herriot, à qui je remis les clés de l'atelier. Cependant, 2 jours plus tard, Madame Josserand se présentait chez moi, en me demandant de rouvrir l'atelier. Connaissant mes convictions, elle était bien embarrassée, mais elle me priait instamment de lui venir en aide, car les Allemands exigeaient qu'elle fît confectionner des drapeaux, emblèmes du conquérant. Je refusais énergiquement. Je ne travaillerai pas pour l'occupant. Les larmes aux yeux, elle m'annonça qu'en cas de refus, des otages seraient pris, tels que M. Herriot, le cardinal Gerlier, M. Serlin. Devant ce chantage odieux, je ne pus que m'incliner. Madame Josserand, j'accepte, mais à une condition, qu'aucun Allemand n'entre dans l'atelier. Je ferai installer dans le hall par M. Tardy, le concierge du conservatoire, une table où sera déposé le travail achevé. » Émus aux larmes, nous nous jetâmes dans les bras l'une de l'autre. Qu'allions-nous devenir? Que deviendrait notre pays? Pourtant, je ne me résignais pas devant cette défaite. Je n'y croyais pas, je ne voulais pas y croire. De bouche à oreille, nous apprîmes que De Gaulle adresserait un message de Londres, ce qui nous fut confirmé par la radio suisse, en la personne de M. Saint-Granier. Ce De Gaulle, connu comme chef militaire, s'était vu, en place au gouvernement, refuser un armement plus moderne. L'appel du 18 juin 1940 provoqua une explosion de joie et d'espérance qui fit battre tous les cœurs. Il confirmait enfin ce que les tracts que l'on distribuait à la population dans les boîtes aux lettres ou par des papillons que l'on collait sur tous les espaces libres essayaient de faire comprendre aux Français. Il voulait redonner à chacun le sens du patriotisme. L'armistice du 25 juin 1940 remit tout en question. À cette nouvelle, je téléphonai vivement à mon mari, bouleversé mais excité de rage et de colère. C'est fait, l'armistice est signé, les lâches, les vendus, lui criai-je. Il n'est pas possible que nous soyons irrémédiablement vaincus. Non, je me refuse à cette idée. Qu'en pensent messieurs Parel et Bidault? Ma résolution était de faire partager sans crainte mon opposition face à cette lâcheté, cette honte. Baisser la tête, supporter le martèlement des bottes allemandes était au-dessus de mes forces. À l'atelier, ce fut l'effondrement, l'inquiétude. Les ouvrières partageaient mon sentiment. Un lourd silence pesait entre nous, puis je pris la parole, juché sur une chaise. Mes enfants, non, n'y croyez pas, la guerre n'est pas terminée. Pétain est un lâche, il nous a vendus, mais nous n'avons perdu qu'une manche. Nous gagnerons la deuxième. Pétain a gagné ses galons sous la République, ainsi que sa retraite. Maintenant, il nous vend aux nazis, mais jamais la France n'acceptera cela. Il nous faudra lutter avec courage. En fait, je ne savais pas si tout était de mon avis. J'étais seul à parler. Pour ma part, je voulais chasser l'étranger qui voulait commander chez nous. Je n'admettais pas la collaboration, aussi tous les moyens seraient bons. Il m'était cruel de subir cette occupation, et je voulais de toute mon âme servir mon pays et le délivrer. La débâcle de juin 1940, l'annonce de l'armistice, l'occupation allemande, tout ceci m'indignait profondément. 6 décembre 1940. Mon mari, M. Parel et Mme Nourrice, actuellement Mme Gravelet, furent arrêtés par l'inspecteur Moucault sous la dénonciation de Briatta. Briatta était le plus proche voisin de M. Parel. Il était marchand de bois et espionnait M. Parel, comme nous l'avons appris plus tard. Maître Fauconnet assura leur défense. Le juge d'instruction, Giraudet, qui s'occupait de l'affaire, prit plus tard le maquis de Saint-Symphorien. Une réprobation existait déjà contre l'ennemi. Mon mari fut relâché fin décembre, puis M. Parel et sa secrétaire peu de temps après. Plus que jamais, chacun de nous se remit à l'ouvrage. Après les tribulations vécues par cette arrestation et dès leur sortie de prison, les tracts et les papillons réapparurent en grand nombre sur les murs et dans les boîtes aux lettres, mais avec plus de prudence. Année 1942, Philippe Henriot proclame à la radio. La radio anglaise est un danger pour notre pays, elle cherche à nous diviser et par là même à amener la guerre civile chez nous. Pierre Laval constitue un nouveau gouvernement. La grande relève des prisonniers est instituée à l'appel de Pétain et Laval, ce qui provoque la débâche. Le travail obligatoire est bientôt institué, et le gouvernement fait une chasse de plus en plus précise aux hommes et aux femmes qui tentent de se soustraire à cette obligation. À cette époque, commença une ignoble propagande contre les Juifs, que l'on persécuta sans arrêt. On les obligea à porter l'étoile jaune. Ils ne furent pas tous conscients de cette persécution au départ. Malheureusement, devant l'évidence, ils comprirent vite qu'ils étaient traqués. La milice n'avait rien à envier à la Gestapo. Partout, elle semait la terreur et la désolation. La police française est sous la dépendance de la milice. En novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord, puis le plan Attila est institué. La France entière est désormais occupée, il n'y a plus de zone libre. Pétain proclama que De Gaulle et tous ceux qui le suivaient étaient traîtres à notre patrie. Dans un discours, il annonça sa décision de collaborer avec les Allemands en vue du bien des Français, afin que nous gagnions la guerre, car c'était pour lui le seul moyen d'y parvenir. Cependant, depuis l'appel du 18 juin, une confiance solide et la volonté d'une lutte libératrice montaient au cœur des patriotes. De Gaulle incitait à la résistance et au regroupement des Français qui voulaient sauver leur pays. Désirant prendre une part plus active dans la résistance et le soulèvement des patriotes, j'allai voir M. Herriot afin qu'il me dirige sur une organisation. Il m'envoya chez le docteur Jean Fousseret, chef du coq enchaîné, à qui j'offris mes services. Je travaillais avec ardeur avec l'aide de M. et Mme Martin, qui étaient employés à la mairie du 2e arrondissement. Ils contribuèrent inlassablement à me fournir tous les faux papiers et cartes officielles, telles que cartes d'alimentation, de tabac, vestimentaire, dont avaient besoin les résistants, qui désiraient se camoufler. Par Jean Fousseret, j'avais également accès à la mairie du 5e arrondissement, qui me fournissait également les cartes officielles, tout ce qui pouvait être utile à la résistance dans sa lutte contre l'ennemi. Rapidement, je fus désigné pour assurer les liaisons, pour diffuser les tracts, pour rechercher des renseignements militaires utiles aux alliés de Londres, tout en alimentant des boîtes aux lettres clandestines. Je camouflais également dans notre propriété de Saint-Didier au Mont-d'Or des suspects recherchés par la milice ou les Allemands. Je fus désigné par mon chef, M. Parel, pour contacter et aider les familles dont l'homme avait été pris. Ce fut ainsi que j'allai voir les familles Baccara, David, Janin et Sparcieux. Je devais faire une enquête auprès de chacun afin d'établir la liste de leurs besoins et la manière dont je pouvais leur venir en aide. Je leur fournis surtout de fausses cartes d'identité, de ravitaillement, des certificats de baptême. À la famille Baccara, je fournis également une quittance de loyer et le livret militaire de mon mari, afin de permettre à M. Baccara de fuir en Savoie, tout en faisant établir un faux certificat de baptême à leur fils, Philippe. Un jour, je portais donc un paquet de faux papiers pour cette famille. Je devais le remettre à Mme Baccara chez sa bonne, Adi, qui habitait Cour Charlemagne. Je marchais tranquillement, quand soudain retentit un coup de sifflet strident, un bruit de course. C'était la panique dans la rue. Je me mis à courir, à perdre haleine. Je savais qu'il y avait une église un peu plus loin. Ce serait un bon refuge. J'arrivai devant la petite porte de l'église Sainte-Blandine. Y entrant rapidement, mes yeux tombèrent sur l'harmonium. Voilà la planque, pensai-je, pour mes papiers compromettants. Je les camouflais, là, sous l'instrument. Je me mis à genoux et priais un moment, puis je me hasardais enfin à sortir. La rue avait retrouvé un calme apparent. Aussi me promenais-je dans le quartier pour m'assurer de la paix des alentours. Il était tard lorsque je revins à l'église. La porte était fermée. Ma seule ressource fut d'aller sonner en face à la cure. « Bonjour, monsieur le curé, je m'excuse de vous déranger. J'ai laissé mes gants sur une chaise dans l'église. N'étant pas de ce quartier, il me sera difficile de revenir. Pourriez-vous m'ouvrir l'église pour les récupérer ?» Le curé acquiesça, et quand il ouvrit la porte, s'apprêtant à m'accompagner, je l'arrêtai. « Ne vous dérangez pas, monsieur le curé, j'en ai pour une minute. Je sais exactement où sont mes gants. » Le laissant là, je filai vers l'harmonium, et glissant mon paquet dans mon corsage, je sortis mes gants, que je brandis d'un air vainqueur, en rejoignant le curé, que je remerciais vivement. Je me dirigeai d'un pas rapide sur mon lieu de rendez-vous, chez Adisotti, où j'arrivai sans encombre. J'y trouvai Madame Baccarat, en compagnie de sa bonne, qui s'inquiétait de mon retard. Je m'excusai sans m'attarder sur les raisons pour ne pas les effrayer. Ma mission accomplie, je repris rapidement le chemin de Saint-Didier où je retrouvai mon mari et mon beau-frère. En été 1942, Monsieur Kornbluk, ingénieur polonais israélite qui s'était échappé de Drancy, me fit une visite et sollicita une aide pour lui, sa femme et sa fille. Sans hésitation, je donnai asile à cette famille et leur établit de faux papiers au nom de Monsieur et Madame Clément. Je les installai dans un appartement libre de notre maison de Saint-Didier. Mais un jour, me trouvant dans le jardin, j'aperçus deux gendarmes qui descendaient le chemin qui conduit à notre maison. Ayant une crainte quant au sort de mes locataires clandestins, je montai vite les prévenir. « Vite, vite, fuyez, les gendarmes arrivent. Laissez-moi Léna, je la cacherai. Passez par le jardin du haut. Allez au 8 quai Saint-Vincent, je vous y rejoindrai. » Cela fait, j'emmenai vite la petite fille Léna, âgée de 8 ans, chez monsieur et madame Champal, nos locataires du rez-de-chaussée. Je leur demandai de cacher l'enfant qui était en danger. Ils la dissimulèrent dans une penderie. Les gendarmes sonnaient peu après. « Monsieur et madame Clément ?»« C'est au premier, messieurs. Passez par la cour, c'est la porte à gauche. » Néanmoins, je les accompagnais. En voyant la porte ouverte, le lit défait, l'un des agents fit cette réflexion. « Les oiseaux sont partis depuis peu, le nid est encore chaud. » Ils se tournèrent vers moi, me questionnèrent. « Savez-vous où ils sont allés? Et quand ils rentreront ?»« Je ne peux pas vous dire, je ne les ai pas vus partir. » Après être redescendu chez moi, je les vis aller frapper chez la famille Champal. Leur fille Suzanne, âgée de 14 ans, ouvrit la porte. À leur question, la fillette dit qu'elle n'avait pas vu la famille Clément et que d'ailleurs, elle ne la connaissait pas, bien qu'habitant dans la même maison. Les gendarmes s'en allèrent, sans plus insister. À la nuit tombante, après 1000 précautions, je partis retrouver à Lyon monsieur et madame Clément, qui m'attendaient patiemment. Je les installai dans notre appartement, où ils purent vivre à l'abri, évitant autant que possible de sortir. Pendant la période où ils vécurent chez nous, nous ne montions plus à Saint-Didier, en semaine, les abandonnant seulement le samedi et le dimanche. Madame Clément s'activait aux tâches ménagères, aux repas, tandis que mon beau-frère, mon mari et moi travaillions. Néanmoins, Monsieur Clément se permettait de temps à autre quelques sorties prudentes. Notre appartement était assez vaste pour nous permettre de vivre à 5 sans trop nous gêner, mais ça ne pouvait être là qu'une solution d'attente. En effet, pour leur sécurité et la nôtre, il était sage de rechercher un appartement indépendant où ils pourraient vivre tranquilles. Je m'occupais également de trouver un lieu sûr pour l'enfant. J'allais voir monsieur le chanoine Montagnon, curé de Serein, à qui j'exposais mon problème. Je lui expliquais la situation de cette famille juive et lui demandais de m'aider à cacher leur enfant. Il accepta et se chargea de la faire admettre par la directrice à l'école Saint-Charles de Serein, où elle allait rester pensionnaire. J'apprenais aussi que dans notre immeuble, l'appartement de monsieur et madame Ray était libre. Monsieur Ray était prisonnier de guerre, madame Ray vivait auprès de sa famille. Usant de mes bonnes relations avec ce couple, je me permis d'écrire à madame Ray. Je lui expliquais la situation difficile dans laquelle se trouvait une famille juive que j'hébergeais et les craintes que j'avais pour elle. Par réponse immédiate, elle m'envoya son accord total pour faire occuper son appartement par ces pauvres gens et elle me joignit par le même envoi ses clés. C'est ainsi que la famille Clément enfin trouva un gîte. Ils s'installèrent donc en ayant d'abord soin de tendre des couvertures sur l'ouverture des fenêtres pour empêcher qu'on décèle la lumière du dehors. Ils vivaient à présent totalement indépendamment de nous, ne sortant que lorsque le besoin s'en faisait vraiment sentir. Mais toujours très prudemment, en évitant de se faire remarquer. Ma seule préoccupation restait d'aller chercher Léna le dimanche afin qu'elle puisse passer la journée avec ses parents. Depuis que la famille Clément s'était installée, nous reprenions chaque soir le chemin de Saint-Didier où nous dormions, non sans avoir auparavant préparé les repas que nous redescendions à l'appartement, car c'est là que nous déjeunions. Malheureusement, l'accalmie ne dura pas éternellement. Un matin, alors que nous étions à peine arrivés quai Saint-Vincent, on sonna. C'était Madame Roqueblave, notre plus proche voisine, qui paraissait très agitée. « Madame Léger, il y a le concierge, Monsieur Girard, qui vous attend. Il a quelque chose à vous dire. C'est très important. » Descendant immédiatement, je trouvai Monsieur Girard coléreux et fébrile. Il me reprochait vivement d'avoir caché des gens dans l'immeuble à son insu. Il tempêta. Je l'incitai donc au calme. Il m'annonça enfin que les Allemands avaient arrêté un homme et me raconta leur visite. Il recherchait la famille Clément. Sollicité par ceci, il ne put que les conduire à l'appartement de Madame Ray. Devant son agitation, je coupai court et lui demandai, non sans lui avoir dit « Ne vous fâchez pas, qui a été arrêté ? Une famille ?»« Non, un homme seul. » Je le quittai hâtivement, en lui promettant des explications pour plus tard, et remontai en courant rejoindre mon mari et mon beau-frère. À ceci, je dis simplement « Monsieur Clément a été arrêté. Foutez le camp. Quand vous reviendrez, ne montez sous aucun prétexte. Si vous voyez les stores de la salle à manger baisser, cela voudra dire que j'ai été arrêté. Dans ce cas, partez vite à Saint-Didier et restez-y. » Ils me quittèrent rapidement. Maintenant, ouvrant toute grande la cuisinière, j'y enfournais tous les papiers compromettants et les tracts. Je gardais cependant les tampons et fausses cartes d'identité que j'enfermais dans une valise. Puis je repartis à mon atelier avec mon précieux paquet. Aussitôt arrivée, je confie à Madame Barbe, ma manutentionnaire. Prends cette valise. Ne t'inquiète pas de ce qu'elle contient. Tu n'as pas à l'ouvrir. Emporte-la chez toi. Puis je téléphonai à Monsieur Augier, de Houlin, pour lui apprendre l'arrestation de Monsieur Clément. À cette annonce, celui-ci lança un nom de Dieu, effrayé, en me criant « Et les papiers, où sont-ils ?» Je le priai de venir à l'atelier. Il acquiesça rapidement et raccrocha. Peu de temps après, M. Augier se présenta à l'atelier. Cet homme semblait si désemparé que je compris que je devais agir par moi-même et vite. Je courus à la loge de M. Tardy, concierge du conservatoire où se trouvait l'atelier. Il était au courant de mes activités clandestines. Devant mon agitation, il comprit que je me trouvais dans une situation difficile. Je le priai de m'indiquer un serrurier dans le quartier. Il en connaissait un et m'y conduisit aussitôt. Nous trouvâmes seulement la patronne à qui j'exposais mon ennui. « Voyez-vous, madame, j'ai fermé ma porte et laissé les clés chez moi. Je suis d'autant plus embêtée que je dois prendre un train à 11 heures. Il me faut absolument un serrurier, et rapidement. »« Mon mari n'est pas là, me dit-elle. Je ne sais pas quand il rentrera. » Je plaidais ma cause et insistais sur le fait que le temps m'était compté. Monsieur Tardy insista et demanda où se trouvait le serrurier. Elle répondit d'un signe de tête en indiquant le café d'en face. Voulant m'y rendre, sa femme m'en dissuadia vite. « Surtout ne faites pas cela. Je vous conseille d'aller devant chez vous et mon mari, aussitôt rentré, vous y rejoindra. » Je ne pus que suivre son conseil. Et remerciant M. Tardy, je retrouvai M. Augier qui nous attendait devant le conservatoire. Il me ramena en voiture qu'à Saint-Vincent. Le temps s'écoulait lentement et je faisais les 100 pas chez moi, fébrile, impatiente. Il ne fallait surtout pas que les papiers qui se trouvaient dans l'appartement de M. Clément puissent tomber dans les mains des Allemands. M. Augier m'avait appris leur importance capitale et le danger qu'ils représentaient du fait qu'ils contenaient des noms et adresses de résistants. Finalement, j'ouvris la porte et je vis le serrurier, M. Terrasse, accoudé au balastre, la caisse d'outils à ses pieds. Il eut un regard surpris lorsque je lui dis que c'était moi qui l'avais demandé. Je coupai court aux questions que je sentais monter à ses lèvres. « Bonjour, monsieur. Voulez-vous venir avec moi? La porte à ouvrir se trouve plus bas. » Nous descendîmes et empruntâmes un escalier de fer qui menait à un autre palier où l'appartement était isolé. Arrivé devant la porte, je frappai avec mon trousseau de clés afin de m'assurer que l'appartement était bien inoccupé. Alors je demandai au serrurier d'ouvrir. Aussitôt fait, je m'engouffrai dans l'appartement en lui recommandant de m'attendre. Je filais dans la salle à manger pour rafler la totalité des papiers de M. Clément, les fourrant dans ma robe, préalablement relevée, pour la bonne cause. Je rejoignis M. Terrasse, encombré, en lui demandant s'il était possible de me faire un double de la clé de cette serrure. « C'est faisable, me dit-il, mais il faut emporter la serrure. » Dans ce cas, c'est inutile. Vous pouvez refermer la porte et partons immédiatement. Nous remontâmes à mon appartement afin de régler son travail. Je me déchargeai de mon fardeau dans la cuisine et priai en vain M. Terrasse de rentrer. Finalement, je lui demandai de la cuisine combien je lui devais. 15 francs, madame. Ce n'est pas cher. Je le rejoignis sur le pas de la porte et après lui avoir réglé cette somme, je le regardai descendre. Quand soudain je vis des soldats allemands monter l'escalier de fer menant à l'appartement de M. Clément. En voyant M. Terrasse se retourner, je n'eus que le temps de lui faire un geste significatif, lui intimant le silence. Je refermai ma porte silencieusement et me dépêchai de mettre tous les documents dans une valise. L'ensemble de ces événements précipités me laissèrent tremblante et angoissée. J'avais la bouche sèche et du mal à respirer. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je devais partir, et très vite, car les Allemands risquaient de venir sonner à ma porte. Il serait dangereux de les faire entrer, en ayant à mon domicile cette masse de papier compromettant. Pour porter ces documents à Madame Barbe, comme le jour précédent, je quittai l'appartement sans la pointe des pieds et descendis l'escalier aussi vite que silencieusement. Une fois dans la rue, je m'appliquai à ne pas courir, ni à me retourner, bien que l'envie m'en prît. J'arrivai rapidement et sans problème à mon atelier, où ma première préoccupation fut d'aller vers Madame Barbe. Craignant que sous la torture M. Clément ne vienne à me dénoncer, je décidai de me confier à ma manutentionnaire. Je n'entrai pourtant pas dans les détails, mais lui recommandai de prendre la direction de l'atelier au cas où il m'arriverait des ennuis. Je lui remis enfin la valise pleine de documents que M. Augier devait venir chercher. Le reste de la journée se passa sans incident. Le soir, comme de coutume, je repris le chemin de Saint-Didier où je retrouvai mon mari et mon beau-frère. Nous décidâmes que pour le lendemain, 8 août 1943, je retournerai seul quai Saint-Vincent. Le matin, j'allais donc déposer le repas préparé la veille avant de rejoindre l'atelier. De nouveau, je fis part de mes craintes à Madame Barbe et nous nous mîmes au travail, le cœur lourd d'angoisse. Alors que midi sonnait et que l'atelier se vidait, chacune d'entre nous rentra déjeuner.
Vous venez d'entendre la première partie de la diction de la presque totalité d'un ouvrage écrit par Madame Hénate Léger, née Vite, qui, à 87 ans, a voulu laisser une trace écrite de certains événements de sa vie concernant la période autour de la guerre 1939-1945. Cet ouvrage est aujourd'hui épuisé et introuvable. Nous remercions infiniment Annie-Claude Sonton qui a bien voulu prêter sa voix de comédienne au texte de Hénate Léger. Au fil de cette lecture, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes, un extrait de Nathalie, puis deux autres extraits à la fin de l'émission, un instrumental de Gérard Mémon qui l'interprétait lui-même, deux extraits aussi de Étla Nocturne, toujours musique de Gérard Mémon qui l'interprète lui-même au piano. Et puis vous avez entendu la chanson Le rêve passe de Crier Éponge sur une musique de Fouché dans l'interprétation originale de Bérard. Nous vous proposons la suite de cette diction la semaine prochaine à 20h. No.
Thank you.